Vous êtes sur RTL. RTL.
RTL. 14h, 15h30. Le bon dimanche chaud avec Bruno Guillon.
Bonjour et bienvenue sur RTL. Merci de finir ce week-end de l'Ascension à l'écoute d'RTL. Alors, vous êtes peut-être dans les retours, en train de vous dire, voilà, on va éviter les bouchons. Depuis votre voiture, vous allez assister à un véritable festival. Le tapis rouge ne sera pas à Cannes, il sera dans vos oreilles. Avec, en bas des marches, Michel Larocque, qui va répondre à une interview faite par un ténor. Nous aurons également Thierry Ardisson, qui tire à balles réelles, là, dans quelques minutes. Et pour débuter, les meilleurs moment du bon dimanche chaud, voici Anthony Cavana sur RTL.
C'est bien simple, depuis que je fais écouter le bon dimanche chaud à mon chien, il a le poil plus lisse, il sait compter jusqu'à 27 et il parle 4 langues. Le bon dimanche chaud, c'est sur RTL.
Il est de retour sur scène avec son spectacle Happy. Anthony Cavana fait son bon dimanche chaud yes. sur RTL. Alors, dans le spectacle, je le disais tout à l'heure, vous parlez de l'arrogance des pilotes d'avion.
Oui.
Notamment quand ils font leurs annonces, vous les trouvez un peu blasés.
Oui, c'est, je pense que c'est les mecs les plus blasés de la planète.
Et forcé de constater que quand on a un micro d'avion, on ne peut pas s'empêcher de parler exactement comme ça. C'est pour ça, cher Anthony, que nous avons décidé de vous faire l'interview. We have decided to make you the interview. BNC aux portes décollage. Imminent. Bonjour et bienvenue sur Air Bon Dimanche Show. Welcome on Air Bon Dimanche Show Airways. La température est actuellement de 19 degrés et nous ne prévoyons aucune turbulence pendant l'interview. Et vous, Anthony Cavana, avez-vous déjà eu des turbulences au cours de votre carrière ?
Oui, comme tout le monde. Toutes les carrières ont des turbulences. Une carrière, c'est un marathon et dans un marathon, ben, t'as des hauts, des bas, t'as un premier souffle, second souffle, troisième souffle. Ce qui est important, c'est d'être encore là. Cet été, ça va faire 33 ans que je fais ce métier. Donc, je suis encore là.
La durée de cette interview sera moins longue. Elle sera approximativement de quelques minutes, comme mon dernier rapport sexuel. Et aucune...
T'as de la chance, toi, c'est quelques minutes.
ne vous sera, avec les préliminaires, ne vous sera servi parce qu'on est un peu radin. D'ailleurs, Anthony, quel rapport vous entretenez-vous avec l'argent ? Vous êtes du genre dépensier ?
Oui, je l'ai été longtemps. Dépensier, et puis en vieillissant, maintenant je fais attention. Je me souviens quand j'ai commencé, ma comptable m'appelait Non Non, arrête
En cas de problème des masques à oxygène tomberont devant votre siège, ne paniquez pas, don't panic. Et vous, cher Anthony, est-ce que vous avez des choses qui vous font paniquer ?
Des choses qui me font paniquer ? La santé de mes enfants ? Ce serait ça. Sinon, il n'y a pas... qu'on me jette du... hors d'un avion, oui, à 35 000 pieds, oui, ça aussi, ça me ferait paniquer.
Bonne réponse. Good. Bonsoir. Nous entamons notre descente. Merci de regagner vos places, de lever vos tablettes et de réveiller votre voisin de siège qui bave sur votre épaule. D'ailleurs, Anthony, pour finir, vous vous êtes déjà retrouvé dans une situation inconfortable avec un ou une fan ?
C'est déjà, oui, déjà arrivé où
il y a des après, fans, y a prescription, il y a eu un jugement.
Des fans qui viennent un peu trop souvent au spectacle ou qui envoient des lettres un peu trop d'amour ou des lettres. C'est pas comme les chanteurs qui, eux, qui ont ça tout le temps. Les humoristes, on a ça, on n'a pas. On n'a pas la même relation avec, avec les fans, mais oui, c'est déjà arrivé un peu trop lourd, un peu trop amoureuse, qui envoie des cadeaux, des trucs un peu chelous, voilà.
Après, vous avez le problème des humoristes, ils sont dit femme qui rit à moitié dans ton lit, et le problème c'est toujours l'autre moitié.
L'autre moitié, c'est ça le problème.
Renault. RTL, le bon dimanche chaud. L'émission recommandée par l'Union française pour la santé bucco-dentaire.
Pour ce dimanche, j'ai un petit problème, Arthus. Je suis désolé de vous le dire, mais il ne peut pas y avoir deux shérifs dans cette bonne vieille ville de Bandimanchot. Je mets un magnifique Stetson qui vient vraiment de l'Ouest américain, alors que le chapeau qu'on vous a trouvé, c'est celui de Zaza dans la cage aux folles. Arthus, j'ai deux, trois questions à te poser.
Ah, il est dégueulasse,
et permets-moi de te le dire, je vais te tutoyer.
Vas-y.
Dis donc, Artus, c'est pas trop la loose d'être arrivé seulement troisième à Danser avec les Stars ?
Écoute, non, parce que déjà, j'ai rencontré ma femme. Donc déjà, c'est une victoire. Et puis que, bon, fallait bien que Laurent Mestret fasse quelque chose de sa vie.
Dis donc, Artus, pourquoi t'as les membres de ta famille tatoués sur les bras ? C'est parce que t'as pas de photos ? J'étais pas sûr, moi.
Ouais.
Dis donc, Artus.
Ouais.
Ça te fait marrer de te moquer des handicapés avec ton personnage Sylvain ?
Ça me fait marrer et surtout, ça fait avancer les choses, je pense. Parce que hop, t'as vu, j'ai repris ma voix de... Ouais. Parce que, en fait, si on les considère comme des gens normaux, il faut qu'on en rit. Voilà. Ouais. Parce que c'est l'hypocrisie, tout le monde te dit...
Mais c'est vrai. Mais moi, je suis d'accord avec ça. Il n'y a rien de pire pour un handicapé que de lui renvoyer son handicap en n'osant pas déconner avec lui. C'est ce que je dis souvent. Voilà, pour,
et puis tout le monde est d'accord pour dire ben, ils sont comme tout le monde. Voilà. Mais par contre, dès que tu fais des vannes, tout le monde dit non, attention, ils sont comme tout le monde, mais on n'a pas le droit de... Ben, alors, ils ne sont pas comme tout le monde. Moi, je considère que si, donc on a le droit de faire des vannes. Et puis, mes vannes sont très light par rapport à ce qu'ils peuvent se faire eux entre eux.
Bien sûr. Dis donc, Artus.
Ouais.
Ça te gêne pas trop d'avoir un look de comptable puceau dans le bureau des légendes ?
Pas faux. C'est pas faux, on va pas se mentir. C'est vrai que c'est pas le personnage le plus viril.
Et on va finir avec la dernière, j'en suis pas peu fier. Dis donc, Artus, ça fait quoi d'avoir un nom qui rime avec anus ?
Et écoute-moi, Bruno Guillon, ça fait quoi d'avoir un nom qui rime avec... Bruno Guillon.
Pas mal. Moi, je prends. Je vais repartir avec ce magnifique coucher de soleil sur mon fringant d'estrier. Mais je vais revenir dans quelques minutes, Artus.
Moi, j'ai pas le droit de t'envoyer une balle.
Vas-y.
Dis-moi, Bruno Guillon.
Je t'écoute.
Ça fait quoi d'avoir perdu 30 kilos pour les reprendre peu de temps après ?
Fallait bien que quelqu'un se fasse l'appeler lui aussi Laurent Ournac, ma gueule. Alors moi je suis assez d'accord avec vous, le c'était mieux avant, ça me saoule. J'aimerais qu'on fasse une interview, ce sera mieux après.
Ah allez.
Ce sera mieux après, d'après vous, est-ce que ce sera mieux dans le futur quand les voitures vont voler, Michel ?
Oh là là, bah, il y aura des embouteillages en l'air, donc ouais. Ce sera pas
ouais,
mieux. Hein.
Ouais, après si on peut marcher au sol, pourquoi pas. Hein.
Pourquoi pas, oui.
Est-ce que ce sera mieux quand on pourra se faire livrer un Vaporetto par drone en moins de 30 minutes ?
Évidemment, maintenant il faut être courageux avec le Vaporetto. Hein. C'est du boulot.
Il y a un moment dans le spectacle où vous expliquez, mais je me suis reconnu parce que moi je me fais très vite happer par le téléachat. Et donc on a envie de commander et on se retrouve
avec
des trucs.
Parce que là où le téléachat est très fort.
Et il nous faut croire que ça marche tout le temps.
Non, mais c'est surtout que c'est en boucle.
Mais oui.
C'est, la pub sur un produit, elle dure au moins 20-25 minutes. Donc sur ces 25 minutes, on finit par se dire. Ils ne nous montreraient pas ça si ce n'était pas génial.
Évidemment.
Quand même, ils ne vont pas se moquer de moi.
Et si.
Et puis quand on l'achète, non, mais j'en ai fait l'expérience chez moi de ce Vaporetto, et où je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? En fait, c'est minuscule, il faut remplir le machin toutes les 3 minutes. En fait, c'est vrai, franchement.
Mais c'est une sinécure.
C'est voilà.
Ça permet de faire du sport, on le comprend d'ailleurs voilà. En voyant le spectacle. Est-ce que ce sera mieux, d'après vous, Michel, dans le futur, quand on n'aura plus besoin d'aller déjeuner chez des amis, qu'on aura juste à mettre un casque de réalité virtuelle pour avoir l'impression d'être chez les Chombiers ? Pour certains, peut-être.
C'est-à-dire, les rillettes virtuelles, ça va être...
J'avoue que ça sera un peu chiant, les rillettes virtuelles. Voilà. Est-ce que ce sera mieux quand on n'aura plus besoin de chiens ni de chats, mais des petits robots qui ne feront pas waf waf, mais bidip bidip ?
Oh, bah écoutez, du moment qu'ils viennent se frotter, ça ira.
Ouais. Est-ce que ce sera mieux dans le futur quand on n'aura plus besoin d'aller à l'école, mais qu'on pourra se brancher une clé USB là dans l'omoplate pour apprendre le suédois ?
Ah, le suédois, est-ce qu'on en aura vraiment besoin ?
Pour monter des meubles ?
Moi je veux bien, mais à ce moment-là, l'anglais ou l'espagnol, mais le suédois.
Est-ce que ce sera mieux quand on n'aura plus besoin de sortir de chez soi pour manifester ? Il y a un moment dans le spectacle. Je ne veux pas dévoiler tout le spectacle, mais j'ai beaucoup ri à plein de moments, notamment ce moment où il y a le télétravail à cause de la pandémie. Bah, comment ça se passe pour les manifs ?
Voilà,
en
bientôt,
Zoom.
Les syndicats vont nous demander de manifester sur Zoom. Donc, rendez-vous sur le palier devant l'ascenseur. 14h15, 14h30, fin du cortège.
C'est ça, depuis le salon. Est-ce que ce sera mieux pour finir dans le futur, quand on pourra voyager dans le temps pour revenir à ce qu'on vit aujourd'hui ?
Bah,
si on peut faire des allers-retours, ça peut être marrant. Hein.
J'avoue que je prendrais
ça. Retrouver deux, trois ex à qui je pourrais mettre une bonne claque.
C'est bien simple. Depuis que je fais écouter le Bon Dimanche Show à mon chien, il a le poil plus lisse. Il sait compter jusqu'à 27 et il parle 4 langues. Le Bon Dimanche Show, c'est sur RTL.
Et c'est Thierry Ardisson qui fait son Bon Dimanche Show en ce dimanche après-midi sur RTL. Dans les séquences que nous pouvons retrouver dans votre émission, il y avait dans Salut les Terriens une séquence qui s'appelait l'interview de Tire au Pigeon.
Ouais.
Son nom l'indique, l'interview de Tire au Pigeon. On va la faire avec vous, Thierry.
Je vous donne un nom et
voilà.
Bah.
Et ben voilà, vous êtes prêts?
Bah allons-y, je sais que je vais m'enfoncer, mais tant pis.
Fusil chargé.
Oh, je vais me fâcher avec la moitié de la
vie. Allez voir, au début, on va commencer par du facile.
Ouais.
Fogiel.
Bon, on a fini par se réconcilier grâce à ma femme.
Ouais.
Mais ce qu'il faut dire, en fait, c'est que tout ça n'est pas par hasard. C'est-à-dire, je faisais une émission le samedi soir qui s'appelait Tout le monde en parle. Et Fogiel fait une émission le vendredi soir qui s'appelait
On peut pas plaire à tout le monde.
On peut pas plaire à tout le monde. Bon, je veux dire, donc moi, en termes d'invité, vous savez ce que c'est,
bien les sûr.
Invités. En termes d'invité, ça me niquait. Ça aurait été M6 qui aurait fait ça ou TF1, j'aurais rien dit, mais c'était le même groupe. C'était France 3, mais j'étais sur France 2. Donc j'ai gueulé. Il y a eu un combat vraiment qui a été très très dur et très très long. C'était 14-18. Hein. Ah mais contre Fogiel, ça a été un enfer.
Mais qui a signé l'armistice?
Non, c'est qu'un jour il est parti sur France 3 en prime et ça a commencé à moins bien marcher pour lui.
Tire au pigeon, bec BD.
Bah, je regrette un peu. Il avait écrit des choses un peu désagréables sur moi dans son avant-dernier livre. Oui, il disait Ardisson n'a rien fait depuis 30 ans. Donc déjà, je lui ai fait faire de la télévision, ce qui est déjà pas mal.
Mm-hmm.
Dans Rive Droite, Rive Gauche, sur Paris Première. Et puis ensuite, bah, il suffit qu'il aille sur Arditube pour qu'il voit ce que j'ai fait. Les livres que j'ai écrits depuis 30 ans, en plus, j'ai fait un best-seller avec lui, on a vendu 100 000 exemplaires. Donc il ne se souvient pas que je lui ai fait faire de la télé. Il a qu'à aller sur Arditube pour voir ce que j'ai fait depuis 30 ans. Et en plus, quand j'ai fait un bouquin avec lui, on en a vendu 92 000. Donc je n'ai pas compris. Alors depuis, il faut être honnête, dans son dernier livre, il dit des choses gentilles.
Et donc là, ça va mieux.
Bon, oui, alors il a rencontré ma maquilleuse.
Ouais.
Chez Ruquier, Valérie Balavoine, et il lui a dit « Ah, je vois plus Thierry, ça c'est bien le showbiz. Ah, je vois plus Thierry, ça me manque, tu vois. »
Oui, bah, c'est le truc qu'on dit, voilà.
Non, mais bon, non, honnêtement, c'est un bon écrivain. Voilà. Bon. Moi, j'avais des prétentions d'être écrivain, mais je ne l'ai pas fait finalement. J'ai publié 2 bouquins, 3 bouquins.
Bah, confession d'un baby boomer, oui, ça a bien marché.
Oui, d'accord, mais au début, je voulais être écrivain.
Oui, ça, je sais.
Vivre de ça.
Ouais.
Sauf que quand j'ai vu que je vivrais très mal, j'ai changé. Comme disait Gainsbourg, j'ai retourné ma veste, elle était doublée de visons.
Et du coup, j'ai fait de la pub.
Ouais. Mais,
un autre, Stéphane.
Ben alors, je comprends pas. Alors, il y a des gens, des fois, ils vous chient dans les bottes, vous comprenez pas pourquoi. C'est-à-dire qu'un jour, il va dans une émission concurrente, nous, on était sur Canal ou C8,
ouais.
Et il va chez C'est à vous, et il dit, il commence à balancer sur Bolloré. Bon, ceci étant, il y a des raisons, mais à l'époque, ça se passait bien avec Bolloré, il n'y a pas de raison de balancer sur lui.
Ouais.
Il nous foutait la paix, il nous donnait de l'argent.
Bah, c'est quand même lui qui vous a viré après. Hein.
Après, mais c'est bien après. Et ouais. Il a dit, alors c'est vrai, des fois j'avais les larmes aux yeux quand je faisais des témoignages, parce que je suis quelqu'un d'assez sensible, et quand je voyais des gens me raconter des histoires épouvantables, j'avais les larmes aux yeux, je pleurais un peu.
Ouais.
Il est allé raconter qu'on me mettait que ma maquilleuse
mettait
des gouttes de silicone pour faire comme si je pleurais. Non, ouais. Non, mais ça c'est bas.
Ouais.
Ça c'est bas, voilà. On peut dire du mal de moi, j'ai aucun problème, mais ça c'est bas, quoi. Mm. C'est dire que je serais fake, que je ferais semblant de pleurer. Enfin, bon.
Zemmour,
moi, il est venu en 2006 chez moi. Il s'est attaqué à Francis Huster dans une vidéo que vous pouvez retrouver. Donc à l'époque, il n'était pas dangereux. Il disait un peu des trucs qui étaient marrants, quoi. Il manait les gonzesses. Là, maintenant, ça devient un peu plus compliqué. Il veut virer les Arabes. Mais disons que...
Et alors, si vous êtes gonzesse et arabe, je peux vous dire que ça va être très dur.
Quitter le pays tout de suite. Non, là, ça devient grave parce que. Je crois, pour être sérieux 30 secondes, je crois qu'il mélange d'être musulman et d'être islamiste, quoi. Moi, je connais plein de musulmans avec qui je m'entends très bien, et qui aiment la France et qui vivent très bien ici. Après, les islamistes qui nous coupent le cou parce qu'on a parlé de la Shoah, c'est autre chose, hein. Oui. Mais voilà, il faut pas mélanger les deux et je pense pas que ce soit une bonne chose de les mélanger, voilà.
Sujet touchy, parce qu'évidemment, vous êtes sur RTL.
Pourquoi?
Laurent Ruquier.
Laurent, je vous dis la vérité, j'ai déjeuné avec lui il y a 3 jours, c'était presque un déjeuner de réconciliation. Quand il a fait sa nouvelle émission en étant direct, je lui ai dit, si tu veux, je te produis.
Mm-hmm.
Avec Philippe Thuillier, qui est un ami commun. Il m'a jeté comme une merde. Alors, je cherchais pas du boulot, en fait, parce que j'avais Hôtel du Temps en préparation, mais Il m'a dit, non, non, tu es trop clivant. Moi, j'ai dit, oh, bravo, c'est toi qui me dis ça. Et puis voilà, et puis on s'est fait un peu la gueule, enfin moi surtout.
Ouais.
Et puis voilà, Laurence, c'est 30 ans que je le connais. On a tout essayé, qui a été un de ses plus gros succès pendant 10 ans en access sur France 2. Quand je suis parti, tout le monde en parle. Enfin, quand j'étais viré, tout le monde en parle. Je l'ai appelé pour qu'il me remplace. Mm-hmm. D'ailleurs, la dernière émission, il vient avec un maître. Et il mesure tout pour la rentrée. Il dit, mais là, je mettrai ça. C'est très drôle. Voilà, non, j'adore Laurent. Il a énormément de talent. Je dis pas ça comme ça, quoi. Il a tout ce qu'il fait. Quand on sait tout ce qu'il fait, je suis assez admiratif. Je lui ai encore dit, quand on voit qu'il fait Les Grosses Têtes, Les Enfants de la Télé, le samedi soir, plus des pièces de théâtre, plus des productions de Gregorio, Gaspard Proust, etc., je suis incapable de le faire, quoi. Donc, je suis assez admiratif de lui, voilà.
Bon, et bon, on va finir sur un compliment. Je trouve ça pas mal.
Ouais, c'est pas mal, c'est rare.
La police, ça a le goût de police, mais c'est du Bruno Mars sur RTL, Locked Out of Heaven.
RTL, Roland Garros 2022.
Et Daniel Schwartzmann qui se reprend face au numéro 1 mondial Novak Djokovic. Il avait perdu le premier set assez sèchement, 6-1. Mais il a fait le break, l'Argentin, dans cette deuxième manche et mène désormais 3-1 sous les yeux de l'astronaute Thomas Pesquet. Déjà deux qualifiés pour les quarts de finale dans le tableau féminin. La jeune Canadienne Leila Fernandez qui affrontera au prochain tour l'Italienne Trevisan. Et puis en double, la paire française Caroline Garcia, Kristina Mladenovic vient d'égaliser 1-7 partout face à la Japonaise Doi et l'Australienne Tomljanovic.
Roland Garros 2022 sur RTL. RTL, 14h-15h30, c'est le Bon Dimanche Show.
Les meilleurs moments du Bon Dimanche Show pour ce dimanche de l'Ascension où, quand la réalité rattrape la fiction, imaginez Zep, l'auteur de la bande dessinée à succès Titeuf, interviewé pour la toute première fois de sa vie par Titeuf himself. Vous allez revivre ce moment dans une dizaine de minutes, mais pour l'instant, place à... Tchou ! Oui, c'est le son que fait Jamy Gourmaud quand il arrive sur RTL.
Avant, le dimanche après-midi, j'étais triste. J'avais pas d'amis. Aujourd'hui, j'ai toujours pas d'amis, mais au moins je me marre.
Le Bon Dimanche Show, Bruno Guillon sur RTL.
Alors, je vais vous expliquer le processus de préparation de cette émission avec mon équipe. On voit bien entendu systématiquement les films, on lit les livres, on va voir les spectacles pour savoir de quoi on parle. Et puis après on se pose, on dit alors qu'est-ce qu'on pourrait faire? Ah bah tiens, Michel Larocque, ceci, cela, etc. Et puis on s'est dit, le film s'appelle Ténor. Est-ce qu'on ferait pas venir un ténor pour poser des questions à Michel Larocque? Alors Michel, je vous présente Stéphane qui vient de nous rejoindre. Il est chanteur. D'ailleurs, certains auditeurs le connaissent puisque pendant le confinement, il a chanté sur les réseaux sociaux pour continuer à faire vivre l'art lyrique. Il va vous poser des questions et vous allez répondre normalement, bien sûr. Il a d'ailleurs une première question pour vous.
Avant ma toute première question, recevez mes salutations.
Merci, merci Stéphane.
C'est beau.
On est sur du Puccini, vous avez remarqué. Bon, écoutez Stéphane, on y va, première question.
Michel Larocque, si vous deviez choisir entre scène et ciné.
Alors,
je choisirais ciné.
Et c'est marrant parce qu'au départ, vous êtes d'une formation plutôt théâtrale. Et la première fois que vous avez goûté au cinéma, vous avez dit « Oh non, alors ça, c'est pas mon truc ».
C'est pas ça.
Et puis ça a switché.
C'est que j'aime pas trop la vie que j'ai. Quand je suis au théâtre, j'aime pas...
Il n'y a pas les soirs entre potes.
Voilà, ouais. Je ne me sens pas libre.
Ouais, y a un rythme d'asset à
et
suivre.
Et puis au réveil, on y pense. On se dit, oh là là, il faut que je garde mon énergie parce que ce soir, au moment où normalement c'est la fin de la journée, on devrait aller se reposer, c'est là où il faut qu'on soit au top de la forme.
Ouais.
Mais voilà, après je suis très heureuse quand je suis sur scène, mais c'est autour...
La vie qui va avec.
La vie qui va avec, ouais.
Autre question Stéphane ?
Est-ce que vous pourriez me dire ce qui vous fera toujours rire?
C'est beau, hein, on n'a même
c'est
pas
beau,
envie
bien
de,
sûr, évidemment.
Que notre question se termine. C'est nous, l'âme humaine, quoi. Enfin, nos réactions... dans des situations un peu déstabilisantes ou quand on veut prouver quelque chose, quand on est dans le regard des autres et qu'on veut montrer quelque chose, convaincre un peu. Voilà,
je m'amuse beaucoup. C'est
vous
ça
dites,
qui me fait rire.
Juste dans une interview, vous dites ouais, que le rire appelle le rire. Ouais, que c'est beaucoup plus simple pour vous et que quand quelqu'un arrive et est déjà un peu dans la déconne, ça facilite le truc pour
ah,
que
oui.
vous aussi vous puissiez.
Mais il y a des affinités, c'est-à-dire des gens qui font que. On est très inspirés. Mmh. On a tout de suite des idées particulièrement drôles. Il y a un peu un feu d'artifice. C'est vrai, c'est des affinités, c'est des rencontres, c'est des complicités. Par exemple, alors, c'est pas très intéressant, mais Jamel et moi, Jamel et moi, quand on se voit, on se parle même pas, on rit.
D'accord.
C'est-à-dire, on fait. Mais en plus, un rire un peu bête. Et on ne dit rien d'autre et on se fait rire.
Bon.
Voilà, je ne sais pas.
Ça fait partie des affinités.
Exactement.
Stéphane, autre question.
Dites-nous si vous préférez jouer à faire rire ou à faire pleurer.
Oh, eh bien...
La comédie ou des rôles plus,
c'est
plus dramatiques.
C'est une très bonne question. Moi, j'aime rire, donc effectivement, j'aime beaucoup jouer dans des comédies, mais c'est vrai que la vie, elle, c'est ça que j'aime dans Ténor, c'est ce que j'aime dans ce film, c'est qu'on passe du rire aux larmes
ouais,
tout le temps.
Exactement ce que je dis tout à l'heure.
Tout le temps, donc ça pour moi c'est les plus beaux rôles. Par exemple dans Ma vie en rose, on riait, mais le sujet était très fort,
très dramatique,
on pleurait,
ouais.
Donc c'est des rôles magnifiques.
D'ailleurs c'est assez significatif, c'est quand on revient sur votre carrière, Michel, vous avez eu des prix, beaucoup de prix,
ouais.
Mais souvent pour des drôles des rôles dramatiques,
ouais.
Et jamais pour des comédies. Vous avez été nommé au César,
oui,
notamment
oui,
pour Pédale douce
et La crise.
Et La crise.
Mais pas on donne, enfin c'est rare. Oui, Valérie, par exemple, merci, elle a un César pour une comédie, mais c'est rare. La comédie, c'est très large aussi comme terme. Je veux dire, on peut faire rire de manière un peu discutable aussi. Parfois, il y a des grosses facilités, donc tout est un peu mélangé. Moi, j'aime les comédies où ce qui me fait rire, c'est quand j'y crois.
Ouais, quand il y a un peu de finesse.
Quand j'y crois, quand c'est vrai. Là, c'est ça que j'ai adoré justement dans une scène, je ne vais pas la déplorer parce que après, mais le frère d'Antoine MB14 il joue tellement bien, tellement vrai, le
oui,
comédien, il fait passer des choses absolument improbables, mais j'y croyais à fond.
Ouais, j'avoue. Stéphane, autre question.
Si la vie, j'ai encore une question. Pardon, je me suis trompé de prénom. Je recommence, je veux dire Michel. En humour, quels sont vos modèles?
C'est beau.
C'est magnifique.
Mais j'adore.
Bravo,
mais vraiment, ouais, j'applaudis. Moi, je me laisse
magnifique.
Porter. Vraiment.
Moi, c'est
de funeste.
Ouais. Alors vraiment, mais toujours. Quoi. Quand je le vois, j'ai l'impression de retrouver un membre de ma famille. Et ben alors lui, par exemple, quand on dit oui, il est grimaçant, mais pas du tout. Il va très loin, mais il est tellement vrai.
Mm-hmm.
Il racontait qu'en fait, j'avais vu une interview. En fait, il est très inspiré par sa mère. Qui était gardienne d'immeubles et qui tout d'un coup pouvait, mais vraiment, se mettre en colère contre lui, lancer des objets sur lui. Et tout d'un coup, un des habitants de l'immeuble, un peu prestigieux, rentre dans la loge et là, oh, bonjour, elle a changé complètement. Et il s'est inspiré de ça et il est vrai tout le temps. On regarde ses yeux, son regard est d'une sincérité folle. Je ne veux pas qu'on dise qu'il fait des grimaces. Voilà.
Une autre question, Stéphane.
Michel, j'aimerais maintenant savoir quelle musique peut vous émouvoir.
Moi, typiquement, Turando. Ça me fait pleurer.
Moi aussi,
ouais,
j'aime,
ça me tire
j'aime
les larmes.
Beaucoup les opéras italiens.
Mm-hmm.
Verdi, Puccini, Bellini.
Et hors opéra.
j'ai fait beaucoup de danse, donc tout ce qui est classique, je l'ai beaucoup connu. Bon, ben, Tchaïkovski, tu as Casse-Noisette, Coppelia, Chopin, on travaillait beaucoup sur Chopin, etc. Sinon, Ferré.
Magnifique.
Véronique Sanson. J'aime Julien Clerc, Jonas. Ça, je suis en train de repenser à...
Vous savez que Jonas a été un de mes premiers invités. Je suis un grand fan de Michel Jonas. Il refuse de faire ce genre d'émission.
Ah bon?
Et il est venu en me disant, je l'ai fait parce que c'est
parce
toi.
Parce que c'est toi.
On a passé une heure et demie extraordinaire avec Michel Jonas.
Ouais.
Et on a passé un moment parfait avec vous. Il s'appelle Stéphane Sénéchal. Je vous demande de l'applaudir.
Merci beaucoup.
Le ténor à la fenêtre de l'Opéra La Pop. Merci. Il est en tournée à Paris et en France. Et l'objectif de Stéphane, c'est de démocratiser l'art lyrique et créer du lien social. Ce qui a un peu une résonance avec, avec le film Ténor. On va mettre vos réseaux sociaux, Insta et Facebook, sur ceux d'RTL. Merci beaucoup Stéphane.
C'est un grand honneur. Et je voulais juste rajouter, j'ai la chance qu'on m'ait proposé un rôle, le rôle de Marius, qui est le rôle d'un barman, dans un film qui va s'appeler La Note Fatale et qui traite d'un sujet très important dans l'art, les discriminations par l'âge.
Eh bien, c'est magnifique. Merci beaucoup.
Super,
merci.
Bravo.
Il s'appelle Stéphane Sénéchal.
Merci.
Bon.
Merci beaucoup.
Le Bon Dimanche Show, c'est tous les dimanches à la radio. Steven Spielberg planche déjà sur la version ciné.
Alors, puisqu'on parle d'enfants, cher Jamy, on a des enfants tous ici dans cette équipe. Et plutôt que de dire, bah, va demander à ta mère ou demande à ton père, on s'est dit, bah, tu sais quoi, tu vas demander à Jamy. Première question.
Pourquoi papa a des poils dans le nez ?
Ah. Alors, c'est marrant, c'est une question que les enfants posent souvent, parce que, étant donné qu'ils sont plus petits, bah, quand ils lèvent les yeux.
Ils voient que ça.
Ils voient les narines.
Ouais. Ouais.
Comment s'appelle cet enfant ?
C'est Paloma.
Paloma. Alors, j'ai envie de répondre à Paloma que tout le monde a des poils dans le nez, même toi, Paloma. Mais ce sont de tout petits poils, des duvets. Et ces poils, ils sont très utiles. Alors, je ne suis pas médecin. Un médecin, il répondrait probablement plus précisément que moi. Mais ces poils ont un rôle. Hein. C'est un filtre.
Uh-huh.
Souvent, les gens qui s'arrachent les poils, c'est très bien, mais il ne faut pas aller trop loin parce que ces poils filtrent les poussières, ils filtrent les pollens, ils filtrent aussi certaines odeurs. Ils sont très utiles au final.
C'est vrai que oui, aujourd'hui, la mode, c'est quand même d'enlever un maximum de poils au niveau du nez, au niveau du corps,
exactement,
au niveau d'autres parties corporelles, alors que si de base c'est là, c'est que ça a une utilité.
C'est une utilité, absolument. Voilà.
Voilà. Bon, autre question, autre enfant.
Pourquoi quand elle se lève le matin, ma maman, elle sent mauvais de la bouche?
Alors j'ai un remède, il ne faut plus lui faire de bisous le matin. En fait, ce n'est pas très grave, il y a plusieurs explications, et c'est tout à fait normal même. En général, quand on est à jeun, eh bien, l'organisme produit des substances qui n'ont pas très bonne odeur. Donc normalement, une personne tout à fait normale ne sont pas très bons le matin, à une mauvaise haleine. Et puis alors, il y a des causes aggravantes ensuite. Parfois, on digère mal, certains aliments restent coincés dans les dents, tout ça fermente et ça génère des odeurs qui, là non plus, ne sont pas très, très, très sympathiques.
Et bon appétit si vous êtes encore à table à l'écoute d'RTL, bien sûr. Autre question d'enfant, cher Jamy.
Comment les hippopotames, ils se grattent ?
Alors, ça, je ne sais pas. Alors, c'est une question qui semble intéressante parce que ce qui est marrant avec les hippopotames, c'est qu'ils ont une peau très, très fragile, en fait. Ils n'ont pas de poils, les hippopotames. Donc, ils ont la peau très fragile. C'est pour cette raison qu'ils sécrètent une sorte de mucus qui les protège, notamment de la chaleur, quand ils vont à l'extérieur. Et puis, le reste du temps, eh bien, ils passent leur vie dans l'eau. Mais je suppose, il faudra vérifier, qu'ils font un petit peu comme les éléphants, c'est-à-dire qu'ils se roulent dans la boue et puis ils laissent cette boue sécher. Et lorsque la boue disparaît, eh bien, en se roulant un petit peu sur le sol, il se soulage.
Autre question d'enfant pour Jamy.
Pourquoi les carottes, c'est orange ?
Ah, ça, c'est une très belle histoire. En fait, à l'origine, les carottes n'étaient pas oranges, elles étaient blanches. Les carottes naturelles,
qui
poussent à l'état sauvage, sont blanches. Elles étaient toutes petites. Et puis, dans d'autres pays, on a trouvé des carottes qui avaient d'autres couleurs, des carottes rouges, bordeaux, dans des régions notamment du côté de l'Afghanistan. Et on a essayé, je crois que c'est au 16e, 17e siècle, de faire des croisements, parce que ces carottes rouges avaient un gros défaut, c'est-à-dire que lorsqu'on les faisait cuire dire, avec d'autres aliments, elle colorait les autres aliments. Donc c'était assez désagréable. Et donc les Hollandais ont fait des croisements entre les carottes blanches et les carottes rouges. Ils ont obtenu une carotte orange. Alors c'était parfait parce que les Hollandais étaient dirigés par les princes d'Orange et que cette carotte avait la couleur des princes qui les dirigeaient. Donc elle a fait fureur. En plus, il se trouve que la combinaison génétique a fait que ces carottes étaient très charnues. Donc elles ont très vite été adoptées par tous les pays.
Ce qui est génial quand même, et je tiens à le dire, et je prends pour preuve tous ceux qui sont dans ce studio aujourd'hui, nous n'avons pas donné les questions à l'avance à Jamy, et Jamy est en train de répondre sans ordinateur, sans un téléphone portable, pas un truc posé en scred sur ses genoux. Il vient de nous sortir l'histoire de la carotte comme ça, de tête, je trouve ça génial. Dernière question d'enfant pour Jamy Gourmaud.
Pourquoi j'ai un cheveu sur la langue ?
Ah, pourquoi j'ai un cheveu sur la langue ? Alors, je te rassure parce que je crois que quand j'étais petit, j'en avais un aussi.
Ah,
voilà. Mais il a disparu. En fait, c'est un petit défaut de prononciation. C'est dû à un mauvais positionnement de la langue quand on prononce certains sons. En fait, quand on commence à parler, le cerveau enregistre la position de la langue pour prononcer certains sons, et parfois on fait des petites erreurs. Alors c'est très rigolo quand on est enfant, mais c'est vrai que plus on grandit, moins ça devient agréable, donc ça se corrige. Et en fait, pour le corriger, il suffit tout simplement aux parents, aux toutes les personnes qui entourent l'enfant, de bien montrer la position de la langue, la montrer avec le doigt. Voilà, la langue, elle doit être posée là, quand je prononce le son « je ». Voilà, elle doit être là et non pas là, sinon ça fait « the ». Voilà.
Magnifique. On reste sur Chuck Berry à l'instant sur RTL.
Le bon dimanche chaud sur RTL, noté 4,5 sur 5 sur TripAdvisor et Fourchette d'or sur Marmiton. Jusqu'à 15h30, Bruno Guillon sur RTL.
Avec Zep, notre invité sur RTL. Zep et cette nouvelle bande dessinée qui s'appelle Ce que nous sommes.
Au bout de 30 ans, vous allez être comment avec Titeuf ?
Faut que je
relation. Parce qu'il nous écoute, là, non ?
Vos relations avec Titeuf, c'est quoi ?
On s'aime toujours bien, je crois. En tout cas, moi, j'ai toujours. Il y a des moments où il m'emmerde, hein, et il y a des moments où j'en ai marre. Donc, quand j'en ai marre, je fais autre chose. Et je pense que c'est aussi pour ça que j'ai toujours du plaisir à le retrouver, c'est que j'ai jamais envisagé le succès du personnage comme une prison.
Ouais.
Et je me souviens que c'est des discussions que j'ai eues avec des auteurs des générations d'avant, avec Uderzo par exemple, qui
dessinait Astérix.
A dessiné Astérix et a dessiné à la fin de sa vie, enfin pendant les dernières décennies, a dessiné plus qu'Astérix, alors qu'il aimait aussi dessiner d'autres choses, mais il se sentait vraiment un devoir par rapport à ses lecteurs. De donner du Astérix parce que voilà, les gens aimaient majoritairement ce personnage et donc il fallait leur donner ça. Et moi, j'ai toujours pensé qu'il fallait pas suivre cette demande-là parce que il y avait rien de pire que tout à coup se retrouver dans quelque chose qui nous amuse plus. Et peut-être le seul devoir qu'on a en tant qu'auteur qui raconte des histoires, c'est d'être toujours, d'avoir toujours du plaisir, d'être toujours amusé par ce qu'on fait. Donc quand j'en ai marre de Titeuf, je fais autre chose, mais je sais que c'est un personnage dont on va me parler tout le temps, parce que même s'il n'y a pas d'album de Titeuf, il va y avoir, je sais pas, une expo, une affiche, une traduction, un spectacle de marionnettes, je sais pas. Donc c'est un personnage qui revient toujours.
Il est passé nous voir en studio, il a enregistré pour vous quelques questions.
C'est ce que je disais.
Et ben oui. Voilà. Titeuf, c'est à toi.
Ciao papa Jep, est-ce que je peux savoir pourquoi tu m'as fait cette coupe de cheveux ?
C'est un peu mon négatif, en fait. Hein. Tu as des cheveux juste où moi, j'en ai plus. Donc,
J'ai lu que vous détestiez, en fait, dessiner les cheveux. C'est vrai ou pas ?
Ouais, c'est vrai. Ouais. Quand j'ai commencé à l'époque où je dessinais, où j'ai créé Titeuf, pour moi, il y avait deux choses que je n'aimais pas dessiner. C'était les cheveux et les lacets. Enfin, parce que c'est hyper fastidieux, en fait. Ouais. Parce que quand tu dessines, il y a une espèce de joie à dessiner. Mais il y a des trucs qui sont très répétitifs. Par exemple, là, je donne un conseil aux jeunes dessinateurs qui nous écoutent. Faites jamais un personnage avec un costume en pied de poule, par exemple. Parce que le premier dessin, on se dit « Waouh, ça a de la gueule !» Mais au bout du centième dessin, vous avez envie de vous ouvrir les veines, parce que c'est insupportable. Et c'est pas 100 dessins, la bande dessinée, c'est 100 000 dessins.
Ouais, ouais.
Donc il faut trouver des trucs qui simplifient. Les cheveux, c'est un truc fastidieux. Quand on fait un personnage, moi je pense toujours à mes camarades qui font de l'heroic fantasy, où ils dessinent des princesses avec des longues chevelures bouclées. Je dis, ouais, la première fois, ils le font, puis ils montrent ça à leur copine. Tout le monde trouve ça chouette. Mais au bout de 10 ans, ils regrettent, hein, les mecs, c'est sûr. Ils se disaient, pourquoi je ne l'ai pas fait chauve, quoi. Et donc, voilà, je cherchais toujours des gimmicks qui figurent des chevelures plutôt que des chevelures. Et c'était pas mal ce truc. Je me suis dit, tiens, cette mèche, c'est marrant.
Autre question de Titoff pour Zeb, son créateur.
Je pourrais savoir ce que je vais faire dans ma prochaine BD?
Si je le savais, j'aimerais bien.
Prenez des notes.
Tu pourrais me le dire.
Ouais, vous parlez tout à l'heure de la dépendance au téléphone portable. Vous allez dans la rubrique notes de votre téléphone et vous dites, tiens, je peux aborder ça?
Non, alors tout est dans des carnets, en fait. J'ai des carnets, je me balade toujours avec des carnets et je note toutes sortes de choses pour tous les projets qui sont en cours. Comme ça, je suis hyper serein, en fait. Parce qu'une idée, elle vous passe dans la tête et peut-être que vous ne repasserez jamais à cet endroit-là de votre tête. Donc, il y a des idées qui sont super, qu'on ne retrouvera pas. Ma grand-mère me disait toujours, si ça ne revient pas, c'est que ça ne valait pas la peine. Et c'est vrai, il y a un certain bon sens à ça. Ça ne sert à rien de se mettre la rate à courbouillon parce qu'on a perdu une idée. Mais je note tout. Et donc, quand je reviens sur un album, je vais chercher mes notes un peu dans tous les carnets. Et je rassemble un peu les idées autour d'un personnage. Et puis Titeuf, c'est une gymnastique. Me mettre dans la peau de ce personnage, ben, je le fais maintenant depuis 30 ans. Donc c'est assez jubilatoire. Quand je suis là, je redeviens un gamin, je m'amuse, j'observe le monde, j'essaye de réagir un peu comme lui. Et l'année prochaine, il aura 30 ans. C'était la première publication de Titeuf en 92. Et le premier album est sorti en janvier 93. Donc j'imagine qu'il y aura... un nouvel album en 2023, mais je sais absolument pas ce qu'il y aura dedans.
Dis, Papa Zep, est-ce que quand je serai grand, je serai toujours amoureux de Nadia?
Bah, la vraie question, c'est de savoir si tu seras grand, en fait.
Ouais, c'est ça.
Parce qu'après 30 ans, on peut quand même se demander s'il n'y a pas des petits soucis de croissance.
En fait, pourquoi tu m'appelles Titoff?
Ça vient d'un pote, il paraît.
J'avais un copain qui s'appelle Christophe et qui signait des articles Titoff. Donc voilà, j'aimais bien ça. Et puis, ça s'écrit T-I-T-O-F. Et il y avait aussi la forme du personnage. Il a un crâne qui ressemble à un œuf. Mm-hmm. Et je pense aussi que ce côté, c'est pas juste. Inconsciemment, pour moi, il a évoqué un peu Calimero, qui vivait avec une coquille d'œuf sur la tête. Donc voilà, œuf, Christophe, Titoff, tout ça à mélanger. Mais c'est le choix du nom, c'est beaucoup plus court que ça. Hein, parce que quand on crée un personnage et qu'on dessine une page... Déjà, il n'y a pas du tout l'idée que ça va durer aussi longtemps. C'est une page, je vais peut-être faire une page, deux pages, donc on ne va pas passer trois semaines à chercher un prénom.
Dernière question de Titeuf pour son créateur Zep.
Papa Zep, tu me l'as jamais dit, mais est-ce que tu m'aimes?
Bien sûr que je t'aime. Bien sûr. Ben, il a changé ma vie, ce petit bonhomme, en fait. C'était quelque chose de complètement imprévu, parce que c'est... Titoff, les premières pages de Titoff, je les ai faites dans un carnet privé, en fait, une sorte de journal intime que je faisais en bande dessinée. Et j'ai fait ça comme une espèce de récréation par rapport aux autres projets de bande dessinée que je faisais. Et j'ai eu envie de le faire pour moi. Et comme à cette époque, bon, ça marchait pas, tous les projets que je proposais étaient refusés, je me suis dit, celui-là, je vais pas l'abîmer, je vais pas le proposer, je vais le garder comme ça, pour moi. Et j'ai fait 10, 15 pages. Et le fait d'avoir cette liberté, ce que je sortais était plus personnel, plus intéressant. Et j'ai craqué, je me suis dit, je vais quand même le présenter. Je l'ai présenté à tous les éditeurs avec qui j'avais collaboré à l'époque. Tout le monde a refusé Titoff. Donc je me suis dit, bon, bah ok, je le garde pour moi. Et je l'ai publié juste dans un fanzine qui était fait par des copains à Genève. Et c'est un éditeur qui travaillait chez Glénat qui est tombé sur un numéro de ce fanzine, qui m'a appelé et qui m'a proposé de le faire. Et je sais qu'au début, j'étais un peu, mais vous êtes sûr? Parce que tout le monde a dit non, donc ça ne doit pas être si bien que ça. Et moi, j'aime bien, mais voilà. Et l'histoire a démarré comme ça, de manière très inattendue, en fait. Et pendant longtemps, enfin, entre la période où il m'a contacté il y a 30 ans et où l'album est sorti 6 mois après, pendant ces 6 mois, tous les jours, je m'attendais à ce qu'il m'appelle et qu'il me dise, en fait, j'ai réfléchi, non,
ça ne va pas le faire.
Ça ne va pas le faire. Et même quand il m'a dit, l'album est en impression... Je rêvais, je me rappelle que je rêvais la nuit, que je recevais l'album, j'ouvrais le paquet et en fait c'était des autres dessins dedans, un truc sur les petits oiseaux, enfin, quelque chose qui n'avait rien à voir. Je me disais en fait, c'est un malentendu ce truc, j'ai l'impression d'être le Jean-Claude Duss de la bande dessinée.
RTL, le bon dimanche show.
Le mieux du très bien, de tout ce qu'on a pu avoir de super dans le bon dimanche show, c'est ce qui va revenir juste après les infos. Vous écoutez RTL, il est 15h. Les infos sur RTL avec Nathan Bocard, bonjour. Merci Nathan, prochain point sur l'information sur RTL, ce sera tout à l'heure à 16h.
RTL, 14h, 15h30, Le Bon Dimanche Chaud avec Bruno Guillon.
Les meilleurs moments, le morceau de choix du Bon Dimanche Chaud, c'est ce que nous vous avons prévu pour ce dimanche de l'Ascension sur RTL. J'annonce Philippe Lachaud de la bande à Fifi dans un peu moins d'une demi-heure. Philippe Lachaud qui, un jour, a vécu un moment de malaise avec Brad Pitt. Eh bien, nous allons tout faire pour lui prouver qu'il est meilleur que Brad Pitt. Il y aura également Sheila et Amir dans la demi-heure, mais tout de suite Gad Elmaleh, le Gad Elmaleh. Enfin, j'ai plutôt envie de dire les Gad Elmaleh, car dans son passage dans le Bon Dimanche Chaud, la personne était plusieurs.
Le Bon Dimanche Chaud sur RTL, noté 4,5 sur 5 sur TripAdvisor et Fourchette d'Or sur Marmiton. Jusqu'à 15h30, Bruno Guillon sur RTL.
Dans vos différents spectacles, vos films, il y a des personnages que nous, on n'a pas oublié. On en parlait tout à l'heure de Coco, mais je pense également au Blond. Et moi, ce que j'aimerais, Gad, c'est poser quelques questions à ces personnages qui vous connaissent bien. Et du coup, c'est peut-être eux qui vont me répondre. Et j'aimerais d'ailleurs parler à Coco pour commencer. Il est comment le nouveau spectacle de Gad ? Est-ce que Gad va nous éclater dans ce nouveau spectacle, Coco ?
Mais c'est pas un spectacle, c'est une expérience de vie. C'est-à-dire, soit tu y vas, soit tu n'existes pas.
D'accord.
Mais bon, j'ai acheté le premier rang.
D'accord. J'aimerais poser la question à Chouchou. Chouchou, c'est un spectacle très intime que Gad nous livre. Tu en penses quoi de le voir se mettre à nu comme ça ?
D'abord, je dois dire, c'est pas la première fois que je le vois nu. Il s'est mis à nu à maintes reprises quand il était déjà un client assidu. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il me rentre plus dedans.
D'accord, très bien. J'ai l'image.
Voilà.
Le Blond est de passage. Alors, cher Blond, si c'était vous qui aviez écrit le spectacle, qu'est-ce que vous auriez fait à la place de Gad ?
D'abord, j'aurais pas écrit ce type de spectacle qui, avec acharnement, essaie de susciter l'hilarité du public, comme que oui, oulala, je suis super drôle. Je pense que j'aurais simplement partagé une vision,
ouais.
Et j'aurais certainement des sièges recyclables. Mais bon, voilà, c'est bon.
Ah, grand-père Baba Yaya, vous avez vu le spectacle ? Est-ce que vous avez tout compris ? Même le sketch où Gad parle de la fille qui prend en photo ses plats avant de les manger, vous avez tout capté, ça ?
Je crois, les gens, ils montrent leur vie qu'elle est bien dans le téléphone, alors qu'ils pleurent une fois qu'elle a posté la photo. Et je trouve qu'ils devraient plutôt pleurer dans le téléphone et les photos pour montrer qu'on est des gens qui ne sont pas parfaits. Et ça montrerait un peu d'humanité. J'en ai marre des femmes qui postent des photos d'elles toutes nues avec des phrases philosophiques, tu vois.
Je vois.
L'autre jour, j'ai vu une dame, elle était en string à Saint-Tropez. Elle a dit « Mon âme et mon cœur regardent dans la même direction. » Mais sur la photo, c'était pas son âme ni son cœur.
Si l'Australopithèque devait nous résumer ce nouveau spectacle de Gad, d'ailleurs, il ferait comment ?
Déjà, il cherche le palais des sports. Il ne trouve pas. Parce que moi, on m'a dit c'est au Dôme de Paris. Et donc, j'ai cherché le Dôme de Paris. On m'a dit non, il faut aller au Palais des Sports. Mais je n'avais pas percuté, c'était le même endroit. Donc, je suis encore en train de chercher le spectacle.
D'accord. Bon, et pour finir, le présentateur québécois doit nous faire la promo du spectacle pour que les gens achètent les places sur le site internet de Gad Elmaleh.
Ben, j'ai l'impression que, justement, j'achète cette expression tant rendue célèbre par notre ami...
Jean-Marc Généreux. Généreux, bien sûr.
Et il l'est. Ben, je pense que si tu vas pas au Palais des Sports à 18 au 26 février,
oui.
À Paris, ben, qu'est-ce que tu vas faire?
Ben, t'as raté ta vie!
Ben, t'es un asti de. T'es une marde, là. Voyons donc, va sur le site, achète tes tickets, puis ah ouais, donc.
La légende raconte qu'une nuit, Bruno Guillon vit en rêve la reine des fées, qui lui souffla à l'oreille de créer tous les dimanches après-midi sur RTL une émission de radio magique, éternelle et bienfaisante. Bon, après, faut pas tout prendre au pied de la lettre hein, non plus, faut pas, hein, pas exagérer. C'est sûrement des conneries, son histoire de fée, mais enfin bon.
Sheila fait son bon dimanche sur RTL.
Sheila, bon, on le disait, on le redisait tout à l'heure avec Thaïs, vous êtes une idole, c'est donc tout naturellement, vous avez participé à la tournée des idoles, la tournée Ashland, qui regroupe une pléiade de stars des années yéyé au disco. On a décidé de vous faire une interview avec tous les artistes qui étaient à vos côtés ou qui ont participé à cette tournée. Vous êtes
prêtes ? D'accord, ok.
Sheila, est-ce que comme Michel Thor, vous aimez danser le soir, joue contre joue, serré dans le noir ?
Ah oui, ouais, mais je veux pas souvent danser. Hein.
D'accord. Ça peut se faire en catimini.
Oui, mais ça, cela ne vous regarde pas.
Je le sais. Sheila, est-ce que comme les forbans, vous aimez quand on fait boum dans le living room et qu'on ramène tout le monde chez vous ?
Ah, moi, j'aime bien faire la fête. Ouais.
C'est vrai ?
Ouais, ouais. Ouais, j'aime bien faire. Alors, boum, je ne sais pas si je fais boum, mais en tous les cas, une petite piscine, tu vois, un truc sympa.
D'accord,
quoi.
C'est vrai. Ouais. Une pool party chez Sheila. Ouais. Je prends. Sheila, est-ce que comme Stone et Chardin, quand vous avez la fringale, on sort la bière en boîte, le pain et le jambon et on s'assoit sur la paille pour pique-niquer ?
J'ai la fringale.
Non, ça c'est quand il fait beau l'été, ce barbecue.
Évidemment.
Ah bah bien sûr,
le barbecue, c'est la base.
C'est bon, c'est la base.
Là on est d'accord.
Voilà.
Là du coup barbecue de week-end, vous appelez oui. Le poisson quand même, vous faites de la merguez, de la
alors,
saucisse.
Alors là des fois voilà, y a, ah, oui. là des fois je zappe un peu le poisson.
On est d'accord.
Vois, mais bon.
Est-ce que comme Gérard Lenormand, si vous étiez président de la République, vous écririez vos discours en vers et en musique ?
Si j'étais président.
Je ne sais pas si je voudrais être président, moi, pour être honnête. Hein.
Ah, on est d'accord.
Ah oui, non. Non, ouais, je veux
le
pas.
Poste de
je veux
pas
prendre
envie.
Ça, non. Ouais. Je leur laisse.
Est-ce que, comme des Miss Roussos, vous écrivez sur les murs le nom des gens que vous aimez parce que vous savez qu'un graffiti sauvage, c'est jusqu'à 2 ans d'emprisonnement et 20 000 euros d'amende quand même.
Non, non, moi, je respecte les murs bien faits, tout le monde les graffitis. Ou alors, il faut que ça soit vraiment de l'art. C'est autre chose.
Sheila, est-ce que, comme Nicoletta, vous pensez que la musique est la clé de l'amour et de l'amitié ?
Oh, la musique, je dirais, c'est la clé des mots.
Très bien, je prends cette réponse. Sheila, est-ce que comme Hervé Villard, vous estimez que Capri, c'est fini ? Ou alors c'est encore jouable pour une petite semaine ? J'ai vu sur Airbnb, on pouvait avoir un truc à 500 balles.
Moi, pour moi, Capri, c'est pas fini du tout.
D'accord. Hein.
C'est très beau, Capri. Ah bah ouais.
Vous allez voir, là, on va monter en gamme.
Vraiment, ah,
les
là,
trois dernières. Ouais,
là, ça
ouais,
devient
ouais.
Chaud.
Ah, ouais,
là.
Ouais, ouais, ouais. Sheila, est-ce que comme la Compagnie Créole, vous aimez les tableaux du douanier Rousseau ?
J'adore la Compagnie Créole. C'est vraiment des mecs et des nanas qui aiment faire la fête et tout. Moi, j'ai passé de très bons moments avec eux.
Voilà. Vous faites un peu de peinture, de dessin ?
Oui, parce que moi, ma mère était le peintre de la maison. Ma mère a peigné très, très bien. Moi, j'adore peindre. Je fais de la peinture, de la sculpture. Alors, après, c'est quand j'ai le temps. Mais bon, j'en fais.
Est-ce que, comme Claude Barzotti, à l'école, quand vous étiez petite, vous n'aviez pas beaucoup d'amis ?
À l'école, quand j'étais petite.
Pas du tout. Moi, j'ai toujours eu beaucoup de potes.
C'est vrai ?
Et beaucoup de garçons, d'ailleurs.
Vous en avez gardé, des potes d'enfance ou pas ?
Non, je les ai perdus, malheureusement. Parce que tu sais, ce qui est bizarre, c'est que quand tu commences à être connu, les gens pensent que tu changes.
Ouais.
C'est fou, hein ? C'est bizarre. Mais enfin, bon, c'est comme ça.
Est-ce que, pour finir, comme Herbert Léonard, vous prenez le temps de temps en temps, mais juste pour le plaisir ?
Bah, il faut prendre le temps de temps en temps. Moi, je suis d'accord. Je suis d'accord avec Herbert.
Moi, je rêvais d'avoir un jour quelqu'un qui a fait des études pour être dentiste et qui pourrait être dentiste, parce que moi, les dentistes, ils ont un super pouvoir.
C'est quoi ?
Ils ont un super pouvoir qui est génial, et je salue mon dentiste qui m'écoute sans doute. Ce pouvoir, c'est vous poser des questions auxquelles vous répondez. Mec, il dit alors, t'as passé de bonnes vacances ? Elle dit ouais, mais c'est normal, il fait toujours un peu froid là-bas. Et je me dis, il n'y a que les dentistes qui peuvent faire ça. Et c'est pour ça que nous avons décidé de vous poser quelques questions en mode dentiste. Et pour ce faire, j'ai récupéré chez mon dentiste un écarteur.
Le look. Ça, c'est énorme hein, derrière.
Ouais, alors, on a fait une photo au montage.
Ah, je sais.
Comme si vous étiez en train de vous faire une analyse de mon hygiène bucco-dentaire. À dire ça, vous comprenez tout ce que je veux
ouais,
dire.
Ouais, je comprends tout ce que vous dites, ouais.
J'étais sûr, ils ont un super pouvoir, les dentistes. Oui, monter sur scène, Amir, c'est quelque chose qui vous a attiré depuis longtemps ?
Oui, depuis l'enfance, hein, depuis toujours. C'était mon souhait absolu.
D'accord. Et maintenant que vous avez goûté aux flanches, le feu, il faut savoir que le feu, c'est le plus difficile aux flanches. Pour quel projet pourriez-vous réendosser le rôle de comédien ?
Pour quel projet pourrais-je réendosser le rôle de comédien ? Je dirais pour tous les projets qui me procurent une émotion profonde. Je me positionne avant tout en tant que spectateur. Mmh. Je lis. Et si le spectateur qui est en moi a les frissons, je prends.
Je sais que vous êtes fan.
Est-ce que vous aimeriez une carrière à la Patrick? Alors, truc réel qui jongle très bien entre le rôle d'acteur et celui de chanteur.
Je me souhaite, oui. Ouais. C'est un très bon exemple.
Est-ce que, avant de monter sur scène, vous avez eu le même track pour la pièce que pour un concert?
Non, à ce stade, comme c'est vraiment incomparable, l'expérience que j'ai de la musique est bien, bien, bien plus longue. Et donc, forcément, quand je fais du théâtre, j'ai encore beaucoup plus le track et j'espère assurer. Il y a vraiment une part d'inconnu et un truc que je ne maîtrise pas encore pleinement et qui aussi me donne une forte excitation quand je suis sur scène et qui m'éveille, qui me titille, qui me met à fond, quoi. Donc, c'est peut-être un peu plus dur émotionnellement, mais beaucoup plus grisant. Et à la fin, je sors lessivé d'une pièce, je suis vraiment fini. Et je suis très fier d'en avoir fait encore une, quoi.
C'est parfait. Enfin, c'était parfait. Ouais, pas facile, hein, pas facile. Mais je vous dis, les dentistes ont un super pouvoir. Amir. L'album de M sort vendredi. Ce sera évidemment une découverte à faire sur RTL. D'ailleurs, il nous chante déjà. C'était dans ta radio.
Jusqu'à 15h30 sur RTL, c'est le Bon Dimanche Show. Bon, là c'est d'abord la pub, mais juste après, c'est promis, c'est le retour du Bon Dimanche Show. Le Bon Dimanche Show sur RTL, noté 4,5 sur 5 sur TripAdvisor et Fourchette d'Or sur Marmiton. Jusqu'à 15h30, Bruno Guillon sur RTL.
Super-héros, malgré lui, c'est le nouveau film de Philippe Lachaud qui fait son Bon Dimanche Show sur RTL. En préparant cette émission, Philippe, j'ai lu qu'il y a quelques années, vous étiez aux États-Unis. Vous avez vu Brad Pitt. Vous lui avez demandé un selfie.
Oui, je suis complètement fan de Brad Pitt. Ouais. Effectivement, pour la première fois de ma vie, je me retrouve à aller à Los Angeles pour présenter Baby Sting dans un festival de films français, voilà, cool quoi. Et à un moment, ils organisent une sortie dans les studios Paramount, il y a des photos et tout ça, et je me balade dans... Au bout d'un moment, moi, ce qui m'intéresse plus, c'est de voir ces studios au cinéma, ça me fascine, tu vois. Donc, je sors du groupe et j'arrive à un moment dans une petite allée des studios. Et là, je vois un gars sur son téléphone. Je repère ses pompes parce que moi, j'aime bien les baskets. Il avait des baskets beiges que je trouvais stylées. Et je remonte, je dis, ah, ça va bien avec son pantalon, stylé le gars et tout. J'arrive et son visage, je te jure, le gars, c'est Brad Pitt en fait. Et je dis, waouh. Et il m'arrive un truc, mais une minette. Ouais. C'est-à-dire que mon cœur, il commence à s'emballer. En
ben
fait.
Évidemment.
Mon cœur, il commence à battre vite et tout. Je dis, mais c'est Brad Pitt, truc de ouf. Et là, tu sais, t'as le truc de... Oh, j'avais ma GoPro dans les mains, tu vois, je dis photo, pas photo. Et le temps que je réfléchisse, tac, il part dans un hangar pour voir les photos.
Ouais.
Et donc là, bah, je le suis, je me dis, je le reverrai jamais dans ma vie. Et je vais dire aux gens que j'ai vu Brad Pitt, personne ne va me croire. Je suis obligé, je lui demande une photo, tu vois.
Ouais.
Donc je fais le fan de base, tu vois. J'y vais, je lui tape sur l'épaule, il se retourne. Je parle très, très mal anglais. Et je lui dis, excuse me, is it possible to do a picture with me? Et il se retourne et avec un sourire de ouf, il me fait ah, no, I'm around. Et je comprends rien de ce qu'il me dit. Je comprends juste qu'il me refuse la photo. Mais je suis tellement content parce qu'il y a quand même un échange. Il me parle.
Ouais.
Brad Pitt me parle.
Ouais.
Et du coup, je fais ah, no problem. Goodbye. Et voilà. Et je dis, oh putain, truc de ouf. Et donc, il m'a refusé ma photo. Mais j'étais heureux. Il m'a parlé. Et si tu veux la suite de l'histoire, je vais au Festival de Cannes, parce que en fait, c'était le même distributeur qui avait sorti Nicky Larson, qui sort le film de Tarantino avec DiCaprio et Brad Pitt.
Once Upon a Time in Hollywood.
Voilà. Et je dis à Stéphane Huard, qui était le patron de Sony, j'ai dit, il n'y a pas moyen, s'il vous plaît, invitez-moi au Festival de Cannes, il y a Brad Pitt, que je le vois deux fois dans ma vie, quoi, tu vois. Du coup, je me fais inviter et tout, machin, là, je vais au Festival de Cannes, j'arrive en bas des marches. Je vois Laurent Veil qui, à la sortie de la voiture, qui me dit je suis en direct sur Canal. Il dit alors, il paraît que t'es fan de Brad Pitt et tout. Il dit bah, tu sais que si tu restes avec moi, je peux peut-être te la voir, ta photo, tu vois. Je dis arrête. Et là, j'oublie que je suis à la télé. Je deviens un gamin. J'arrête, je vais avoir ma photo avec Brad Pitt. Non, mais. Et il dit ouais. Du coup, je reste là et tout machin. Sauf que comme ça passait en direct sur les trucs ou quoi, les Américains voient ça et tout. Ils viennent voir, ils disent non, pas de happening et tout, avec les machins et tout. Du coup, je suis reparti. Comme dans le palais des festivals, comme ça, la tête basse, je dis avec Elodie, elle dit mais c'est pas grave, elle me frotte le dos, c'est vraiment un petit enfant. Et j'arrive dans le palais des festivals et je me dis bon bah peut-être que je vais pas être trop loin de Brad Pitt, tu vois.
Ouais.
Et je descends et plus ça va, plus la nana qui me plaçait nous fait descendre et plus on se rapproche de la scène. Et je me dis bah les stars elles vont être près de la scène.
Bah
tu vois.
Normalement oui.
Je dis c'est chambé, on va peut-être être à côté. Et au dernier moment elle fait un virage à droite, on remonte des marches et je me retrouve tout en haut de la salle avec un muret, je te jure, haut d'un mètre, je les ai pas vus. Je te jure, j'étais debout, je voyais le haut de ses cheveux.
Oh merde.
Deuxième occasion manquée. Mais j'y arriverai un jour.
Mais bien sûr, mais tu sais quoi, à l'arrivée, c'est lui qui demandera un selfie. Vous voilà. Non. Mais surtout qu'en plus, à l'arrivée, qu'est-ce qu'il y a de mieux que vous, Brad Pitt ? Vous savez quoi ? Nous, on s'est dit, on va préparer un questionnaire pour vous prouver, cher Philippe, que honnêtement, c'est un ringard.
Ah, t'as des questions sur... Ah, putain, génial.
Vous allez voir, Brad Pitt a dépensé plus $1 million de frais d'avocat pour son divorce avec Angelina Jolie. Philippe, vous, c'est quoi la chose, la plus grosse chose que vous ayez perdue pour une rupture ?
Putain, bonne question. Ben non, rien.
Rien, bah voilà, bah donc bah vous êtes beaucoup plus intelligent que lui, vous gérez
merci,
beaucoup mieux.
Bah
voilà,
tu me fais réaliser, merci.
Un point pour Philippe Lachaud, voilà. Deuxième question, l'ex de Brad Pitt, Gwyneth Paltrow, a sorti une ligne de bougie à la senteur de vagin. Votre ex, vos ex, elles font quoi dans la vie ?
Il y en avait une dans les cosmétiques et les autres, je ne sais même pas ce qu'elles font aujourd'hui.
Ça vous fait un deuxième avantage sur Brad Pitt.
Merci.
Parce qu'il faut le porter, ça, après. Mon ex, ça fait des bougies odeur de schneck.
Attends, je suis en train de réaliser tout ça, merci.
Sur le tournage du film 3, l'équipe de tournage a balancé que Brad Pitt sentait extrêmement mauvais de dessous
c'est
les bras. C'est vrai. Son surnom, c'était même Arme. Pitt, rapport au bras. Et vous, Philippe, c'est quoi le surnom qu'on vous donne d'habitude ?
C'est vrai, il disait ça ?
C'est quoi votre surnom ? Ben c'est Fifi ?
Bah oui, c'est Fifi.
Et bah alors, c'est quand même vachement mieux,
Brad
Pitt.
T'as raison.
Bah 3-0 pour Philippe, excusez-moi. Dans le tournage du film Seven, Brad Pitt s'est fait retirer des bouts de dents chez un dentiste pour coller parfaitement au personnage. Ce que je dis là, c'est vrai. Hein.
Alors non, alors je te reprends, c'est pas Seven, c'est Fight Club.
Ah, Fight Club. Par contre, vous aurez le droit de me reprendre qu'une fois dans l'émission. Sinon, après, je dis que de la merde sur le film.
C'est comme il faisait un film où il se bastonnait pour être plus réaliste. Effectivement,
oui,
il s'est fait retirer.
Vous, dites-moi, est-ce que vous avez fait des transformations physiques ?
Non,
bah, pas besoin.
Ouais, non.
Et bah 4-0 pour Philippe Lachaud, alors.
J'aime beaucoup ce jeu, il va me mettre le mot.
La passion de Brad Pitt, c'est l'aménagement paysager, c'est le jardinage. Eh, passion de retraité, un peu.
Bah oui.
C'est quoi votre passion, votre passe-temps à vous, Philippe ?
Bah, c'est pas le jardinage.
Et bah voilà, 5-0. Brad Pitt, il a presque son diplôme, et là je lis volontairement, de journalisme et publicité à l'université du Missouri. Ouais. Et il a abandonné ses études. Ouais. Vous avez quoi, Philippe, comme diplôme ?
Bah, moi j'ai mon bac et mon...
Bim !
Avec la mention assez bien.
Et alors attention, les stockades. Brad Pitt a été interdit d'entrer en Chine après le film 7 ans au Tibet. Et vous, Philippe, vous pouvez aller où vous voulez dans le monde ?
Je suis déjà allé en Chine.
Brad Pitt. C'est qui le patron ?
Prochaine fois, il fera la photo.
Exactement. Et vous lui direz non.
Sur RTL.
RTL, 14h-15h30, c'est le Bon Dimanche Show.
Merci d'avoir suivi les meilleurs moments du Bon Dimanche Show de ce dimanche de l'Ascension que je vous souhaite excellent. Vous avez encore quelques heures pour profiter de ce dimanche. On se donne rendez-vous dimanche prochain avec un nouvel invité qui viendra s'asseoir sur le fauteuil du Bon Dimanche Show. Et pour la toute première fois, ce sera Frédéric François.